BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Dernière émission avant l'été, avant de se retrouver à la rentrée. Cette semaine, on va parler des carrières des femmes. On va parler salaire, on ne fera aucune concession. Pour en parler avec nous, notre exécutive de la semaine, c'est Élise Maury. Elle est DRH adjointe d'Engie. 50% de femmes managers d'ici 2030, c'est le programme. Pourquoi si loin? On va lui poser la question. On parlera ensuite de rôle modèle avec Marie Bournazel, elle est consultante en management. Christine Lagarde, Sheryl Sandberg, est-ce que c'est pas un peu loin comme modèle pour les jeunes filles qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui? Et puis on reviendra au nerf de la guerre, le salaire, comment bien négocier homme ou femme. On prendra un cours avec Raphaël Maisonnier de l'application LIC. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutive de la semaine, c'est Élise Maury. Bonjour, vous êtes DRH adjointe d'Engie. Alors Engie, bien sûr, c'est un fournisseur d'énergie, mais des métiers en pleine mutation sur le plan technique et technologique et sur le plan humain. Alors j'ai lu que 70% des emplois dont le groupe aura besoin d'ici, allez, on va dire 20 ans, sont des métiers que vous ne connaissez même pas, ce qui veut dire que vous formez aujourd'hui des gens à des métiers qui n'existent pas. Comment vous faites ?
Bonjour Laure. Écoutez, merci pour cette question. Je dirais que plus que 70% des emplois, c'est vraiment 70% des compétences qui sont techniques et dont on aura besoin, comme vous dites, dans cette échéance de temps. Alors 70% des compétences techniques non connues. En fait, ce qu'on fait, c'est un travail qui est prospectif et anticipatif par rapport à ces besoins. Donc régulièrement, auprès de nos filiales opérationnelles, on les sonde pour imaginer quels sont les besoins en formation technique sur tout l'ensemble de nos métiers de l'énergie. Donc c'est un travail prospectif et qui amène à mettre en place des formations pour accompagner cette transformation.
Mais alors, c'est presque un travail de compteur. On doit inventer. Vous avez des équipes opérationnelles chez Engie qui inventent. Alors, quel pourrait être le métier de demain ?
Alors on a des équipes qui savent, à travers aussi les échanges avec leurs clients, quels vont être les besoins des clients pour pouvoir derrière transposer à nos propres métiers. Je vais vous donner deux exemples. Alors, dans le domaine du renouvelable, qui est vraiment une activité que nous développons fortement, nous accompagnons nos équipes à être techniquement compétentes sur ces métiers-là et des métiers qui vont perdurer. Dans le domaine notamment de la performance et de l'efficacité énergétique, là aussi, on le fait pour les villes, pour les entreprises, pour les industries. On accompagne nos salariés pour être en autonomie et notamment à travers le digital qui devient une partie prenante extrêmement importante de nos métiers. Par exemple, lorsque vous pilotez un réseau de froid et de chaud pour la ville de Paris, vous avez énormément de données que vous devez collecter, analyser pour vous permettre de piloter l'installation. Donc on forme nos techniciens à ces technologies du digital. Et pour vous donner aussi un exemple d'un technicien, aujourd'hui un technicien, il aura une tablette, il aura des outils digitaux, il va aussi développer ses relations interpersonnelles avec son client. Donc c'est bien plus que de faire une simple intervention technique et physique. Et donc c'est notamment attirant pour les femmes dans ces métiers-là.
Est-ce que vous aviez, dans toute votre partie anticipation, imaginé une telle révolution de l'organisation du travail comme le Covid nous en a fourni une ?
Alors, chez Engie, le télétravail existait déjà, notamment dans nos entités en France. Nous avions des accords pour 1 jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine et nous avions équipé les équipes. Donc, lorsque le Covid est arrivé, bien sûr, on a dû apprendre, mais on était déjà équipés. Donc, moi, ce qui m'a vraiment épatée dans cette phase, c'est de voir que les équipes se sont adaptées extrêmement rapidement et toutes celles qu'on a pu mettre en télétravail, elles s'y sont mises immédiatement. Mais nous étions déjà dans une culture du télétravail.
On enregistre cette émission mi-juillet. Il y a beaucoup d'entreprises qui font tout ce qu'elles peuvent pour ramener leurs salariés au bureau. Vous êtes dans quel état d'esprit chez Engie ? Vous avez ramené une partie des équipes ou pas ?
Alors nous le faisons progressivement. Nous avons commencé à 10%, notamment au siège d'Engie. Nous sommes maintenant à 50%. Et nous invitons les équipes à revenir pour permettent aussi de créer ce lien social. Le télétravail, c'est un atout, mais ça ne fait pas tout, notamment lorsque les équipes doivent travailler en collectif, en projet. Donc, nous ramenons les équipes par projet,
mais
par équipe.
Vous allez renégocier des accords de télétravail
Alors, nous avons déjà des accords en place, dans la plupart. Nous allons voir si nous les faisons évoluer, mais elles sont déjà en place. Donc, nous pouvons déjà utiliser un mélange à la fois de télétravail et aussi de présence au bureau pour favoriser le lien social. Et c'est d'ailleurs une demande de nos salariés.
Et pour vous, le bureau, c'est là où on discute, quoi. C'est là où on crée
d'innovation. On travaille en équipe. Exactement. Mmh. C'est là où on travaille en équipe. Et vous savez qu'on a mené des enquêtes flash pendant tout le Covid. Et nos salariés nous ont dit non, ce n'est pas 5 jours de télétravail qu'on souhaite. C'est un mix entre le télétravail et aussi la présence.
Là, maintenant, tout le monde s'accorde à dire que le 100% télétravail, c'est nocif pour tout le monde.
Oui.
Sur la question de la formation, on en parlait au début, essentiel pour les métiers de demain. Vous avez créé un CFA, une sorte d'école au sein d'Engie. Énormément d'entreprises ont fait ça depuis que la réglementation a changé il y a un an ou deux. C'est quoi l'idée? C'est de dire qu'aujourd'hui, quand on va dans une école classique, ça ne suffit pas. Chaque entreprise a besoin de compétences spécifiques et il y a qu'elle qui peut la former en interne.
Alors, il n'y a pas autant de CFA créés par les entreprises que ça. La raison première, c'est que nous voulons vraiment développer l'apprentissage et l'alternance. Et Engie s'est fixé des objectifs extrêmement ambitieux. Nous étions à 7% l'année dernière, nous voulons monter à 9%, donc recruter 2500 alternants supplémentaires et monter jusqu'à 10%. Et nous sommes la seule entreprise qui avons maintenu cet objectif malgré la crise du Covid. Et vous savez combien c'est important pour nos jeunes.
800 000 jeunes vont arriver sur le marché du travail en septembre.
Ouais. Absolument. Et si vous n'avez pas d'alternance, vous n'avez pas votre diplôme. Donc, pour accompagner cet objectif, on a décidé de créer un CFA. Alors, c'est un CFA, je dirais, hors les murs. C'est-à-dire que nous allons travailler en partenariat avec des CFA existants. L'objectif, ce n'est pas de les faire disparaître, c'est de travailler avec eux pour travailler le contenu pédagogique et aussi pouvoir y inclure nos métiers autour de la transition énergétique bas carbone. Donc, pouvoir y injecter des modules qui sont propres à nos métiers.
Mais ça ne s'apprend pas à l'école, ça. Il faut absolument un truc spécifique.
Il faut il y a la formation théorique à l'école et ensuite, il faut la formation pratique. Et en fait, c'est le mix des deux qui permet vraiment d'accompagner nos alternants. Et surtout, c'est pour nous une filière d'excellence pour recruter. On a un objectif en nombre, mais aussi on a un objectif de transformation de ces alternants en contrat. Donc c'est aussi une filière d'excellence pour recruter, notamment dans les métiers techniques où il y a des pénuries, notamment dans les métiers de la maintenance qui sont très demandés par l'industrie.
Sur les recrutements, vous avez fait baisser la jauge de 2020 ou pas? On dit sur les alternants, vous n'avez pas bougé, mais globalement vous mettez un petit stop
Alors, Engie recrute environ 10 000 personnes en France par an, 37 000 dans le monde. Nous avons à l'heure actuelle 3 000 postes qui sont ouverts sur nos systèmes, sur notre engie.com. Mm-hmm. Et parmi ces 3 000 postes, nous en avons 1 000 qui sont destinés aux jeunes avec moins de 3 ans d'expérience. Donc, on adresse vraiment cette demande sur le marché des jeunes qui arrivent dans un contexte particulier.
Mais le Covid vous a pas fait fermer une partie des recrutements?
Alors, on a surtout priorisé pour l'instant, on priorise la reprise d'activité et voilà, la sauvegarde de l'emploi, c'est vraiment notre objectif. Mais nous avons toujours des besoins opérationnels liés à des gains de contrat. Et donc, nous avons toujours des postes qui sont ouverts en recrutement.
Sur la question des femmes, je le disais en sommaire, votre objectif, c'est 50% de femmes managers à horizon 2030. Moi, j'ai vu cet horizon, je me suis dit 10 ans pour arriver à 50%, mais ça va être si long.
Alors, il faut savoir d'où on part déjà. Nous sommes à peu près à 24%, donc nous voulons doubler le nombre de femmes, c'est-à-dire avoir 20 000 managers femmes à l'horizon de 2030. Donc, manager, c'est cadre en France, manager international. C'est un objectif, sur 10 ans, ça peut paraître long, mais en même temps, c'est très court. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut vraiment, c'est lié à la culture de l'entreprise, donc il faut transformer cette culture et arriver à travailler avec les femmes et les hommes pour pouvoir traiter les biais inconscients, déjà, les biais inconscients genrés, pouvoir traiter aussi les émotions, parce que c'est un projet qui amène des émotions pour les femmes et pour les hommes, et aussi l'ancrage culturel de chacun.
Et vous pensez que pour ça, il va encore falloir 10 ans?
Alors, il faut être assez systématique, c'est-à-dire qu'il faut traiter, d'abord, il faut sensibiliser les managers, les équipes, à la fois dans la manière de recruter, dans la manière de développer des femmes, de les former et de les promouvoir. Et cet objectif, il est mondial. Donc, nous voulons pouvoir développer cet objectif, traiter les sujets salariaux, traiter l'aménagement du train de travail, donc avoir des politiques RH qui soient vraiment inclusives. Et la transformation culturelle prend du temps, mais on est déterminé à atteindre cet objectif quantifié.
Où est-ce qu'il manque le plus de femmes dans les filières techniques ?
Je vais peut-être vous surprendre, Laure, parce que nous avons mené une enquête récente avec Universum sur le classement des entreprises et leur attractivité. Et figurez-vous que les femmes sont en nombre, le nombre de femmes sont plus attirées par les métiers d'Engie que les hommes. Alors on peut se demander pourquoi. Tout simplement, je pense que c'est notre raison d'être. Voilà. Notre raison d'être, c'est vraiment être un leader de la transition énergétique bas carbone et avec un objectif à la fois pour les personnes, pour la planète et aussi pour la performance.
Vous pensez que les femmes sont plus sensibles à la question de la raison d'être ? Alors, raison d'être, elle a 1 an, 2 ans maximum.
Oui, mais les femmes, on a vu le nombre de CV augmenter de manière drastique. Ah oui. Donc, on a augmenté de 30% entre 2018 et 2019 et notamment auprès des femmes. Et elles nous disent dans les entretiens que l'une de leurs motivations, c'est en effet la raison d'être et cette stratégie qui à la fois concilie la performance.
Vous me donnez un sacré sujet de chronique pour le matin. Ça, la raison d'être serait un critère d'attractivité pour les femmes.
Oui, pour les femmes, le sens en fait, le sens de notre métier, hein, d'aller vers plus d'énergie renouvelable, de consommer moins, de consommer mieux. Elles ont envie d'être actrices, avoir un impact positif pour la société.
On va faire notre petit quiz. Stop ou encore ? Vous me dites rapidement si on continue ou si on arrête le télétravail.
Alors, on continue parce que tout simplement, c'est déjà en place, mais pas 100%.
Les conférences call ?
On continue.
On arrête pour l'été quand même. Hein.
Voilà, on va faire une petite pause. On continue parce que c'est un outil au service du télétravail.
Les Chief Happiness Officer ?
Alors moi je dirais on arrête parce que vraiment le bien-être au travail, la qualité au travail, elle doit venir de chacun d'entre nous.
Donc le bonheur, qualité, mis dans un poste, non.
Pas une personne, c'est tout le monde qui a cette responsabilité.
Les pointeuses pour les horaires.
On arrête parce que pour moi la relation de travail, c'est une relation avec des engagements de part et d'autre qui doivent être basés sur la confiance.
Les robots recruteurs.
Alors l'utilisation de l'intelligence artificielle est extrêmement utile en amont des recrutements pour préqualifier les candidats et aussi les orienter au mieux. Donc c'est un bénéfice de part et d'autre. Par contre, pas de robot sur l'ensemble de la chaîne de recrutement, il faudra toujours l'humain.
Ça dégraisse quoi, un petit peu, ça oriente. Les soft skills.
Alors les soft skills, c'est fondamental. Hein. Il ne suffit plus d'avoir les compétences techniques. Il faut
avoir
des compétences
douces.
Exactement, et comportementales, c'est-à-dire la capacité à avoir de l'empathie, de l'écoute, travailler en équipe, faire grandir ses équipes, l'intelligence émotionnelle. C'est devenu indispensable dans nos recrutements et dans le développement de nos équipes.
Merci beaucoup, Élise Maury, DRH adjointe d'Engie, d'avoir été avec nous. Bel été sans conférence call. Hein. On fait une petite
C'est ça, on fait une petite pause.
Ça va nous faire du bien. On continue de parler de femmes et de carrière avec notre deuxième partie, Better Together.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va essayer de faire mieux ensemble. Je suis avec Marie Bournazel, consultante en management. Bonjour, vous êtes spécialisée dans les questions d'égalité et coordinatrice chez Femmes Ici et Ailleurs. Alors, une question directe pour commencer. Est-ce qu'on a besoin, quand on est une femme, d'avoir un rôle modèle, d'avoir quelqu'un sur lequel se projeter, rêver? Et puis, est-ce que les rôles modèles, finalement, les Sheryl Sandberg, les Christine Lagarde et Tutti Quanti, c'est pas finalement un film en elle-même?
Alors sur la question des rôles modèles, moi je crois que c'est absolument essentiel en fait de pouvoir s'identifier à des personnes qui font. Les femmes en manquent cruellement puisque en fait dans les médias, 76% des personnes qui sont représentées, ce sont des hommes. Donc effectivement, quand sur les 24% qui restent, qui sont dédiés donc aux femmes. On a d'abord les femmes qui sont présentées comme victimes de harcèlement, etc. Les femmes qui sont dans les rôles traditionnels. Et puis, sur ces 24%, 6 petits pourcents qui sont sur les femmes agissantes, les femmes en entreprise. Donc du coup, quand on n'a pas cette possibilité de se projeter, d'imaginer ce qu'on peut faire, d'imaginer les différents métiers, c'est extrêmement...
C'est déjà pas mal, en fait.
Extrêmement compliqué de se projeter. C'est déjà pas mal de s'identifier.
Mais c'est déjà pas mal d'avoir ces femmes-là. Je veux dire, Sheryl Sandberg ou Christine Lagarde, c'est ce que vous dites. Faute de mieux, quoi.
Faute de mieux, non, c'est très bien, c'est très bien. Sauf qu'en fait, là, on n'est pas dans les rôles modèles, on est carrément dans les star modèles. C'est-à-dire que je veux faire de la science, oui, ok, tu vas être Marie Curie. Marie Curie, c'est double prix Nobel. Donc ça, c'est un peu compliqué quand on dit, quand on a en fait ces éléments-là, ces personnes-là qui sont ici. Nous, on se dit, mais comment je vais faire ?
Donc on a besoin de managers intermédiaires, de gens du quotidien.
Alors on a besoin de managers intermédiaires, on a besoin donc de rôle modèle de proximité, on va dire en fait. On a besoin de mettre en lumière les femmes qui font dans l'entreprise, tout simplement pour ce qu'elles font. Donc d'ailleurs nous, enfin moi je travaille chez Femmes Ici et Ailleurs sur ces sujets. De mettre en avant les femmes agissantes en entreprise ailleurs, et c'est vraiment hyper important de montrer aussi que les femmes, on le fait aussi par exemple à travers des expositions sur la mixité des métiers, de montrer que les femmes peuvent être soudeuses, peuvent être ingénieures sur voirie par exemple, sur des sujets ou infrastructures, des sujets qui sont souvent extrêmement masculins.
Et on a besoin aussi de tous ces classements. Là on a vu récemment, au moment où on enregistre cette émission, il y a Forbes qui a sorti les 40 femmes les plus puissantes de France. Ça aussi, ça aide. On a besoin de ce type de classement.
Ah ben bien sûr qu'il faut montrer en fait les femmes dans toute leur diversité. On va pas montrer seulement un seul type de femme en disant voilà les 40 femmes les plus puissantes. Il faut le savoir, c'est très bien. Mais il faut aussi avoir des modèles de femmes qui sont effectivement ou dans manager intermédiaire ou qui sont soudeuses parce que elles en ont envie. Montrer aussi des hommes.
Mais vous
qui
vous
sont...
dites elles existent. Elles le existent. Problème c'est pas qu'elles existent pas. En fait, elles existent, c'est qu'on ne les montre pas.
Bien sûr que c'est le problème. C'est, on ne les montre pas, ou on les montre insuffisamment, puisque, effectivement, 24% de la part dans les médias pour les femmes, c'est extrêmement peu. Donc nous, c'est vraiment un objectif qu'on a, c'est de montrer les femmes pour ce qu'elles sont et ce qu'elles font, donc avec un magazine, avec des rencontres, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement accessible. D'ailleurs je vais vous montrer.
Montrez-nous.
C'est un magazine qui, Femmes Ici et Ailleurs, permet en fait de montrer les femmes pour ce qu'elles sont et ce qu'elles font, de manière hyper engagée, positive et très très simple.
L'inégalité sur laquelle je considère qu'il faut se battre dans le monde du travail, c'est le salaire. Il y a encore aujourd'hui une inégalité très forte.
Oui, elle est encore très forte. Alors évidemment, depuis 1972, hein, on a à travail égal, salaire égal, c'est la loi. Donc dans la loi... l'égalité salariale existe, mais dans les faits, on a quand même 25% d'écart entre les salaires des femmes et des hommes. Donc un écart...
On va vous répondre, c'est la grossesse et c'est parce qu'elle travaille moins.
Alors ça, la grossesse, c'est quand même un non-sujet, parce que dans la vie d'une entreprise et dans la carrière d'une femme, 4 mois d'absence pour un congé maternité, c'est extrêmement peu. Donc c'est à nouveau le regard qu'on porte sur ces moments-là qui est problématique. Et qui est à l'origine en fait de cet écart de salaire. Et quand je parle du regard, c'est clairement, par exemple, les accidents de ski, tous les autres congés maladie longue durée sont beaucoup plus problématiques pour l'entreprise que la maternité. Et coûte bien plus cher.
Et ça n'impacte pas le salaire directement.
Ça n'impacte pas le salaire directement. Et ensuite, on n'a pas diabolisé les sports d'hiver pour autant. Hein, tandis que sur la carrière des femmes, je veux dire, on en fait toute une montagne, hein, pardon, mais alors que c'est une absence qui est non seulement courte, mais prévisible et donc anticipable. Donc là, c'est à quel moment
Comment ça se fait que l'entreprise, puisque effectivement c'est très anticipable, on annonce sa grossesse au 3e-4e mois, c'est un moment compliqué dans la carrière d'une femme d'annoncer une grossesse au travail, ça reste quand même un moment charnière. Comment ça se fait que l'entreprise, sur cette question-là, qu'elle peut gérer, savoir que l'absence, c'est dans 6 mois, elle n'y arrive pas? Ça reste toujours un problème.
Alors, la question, c'est la culture dans laquelle on est. C'est comment, à un moment donné, on se dit pas, on change pas le regard qu'on a sur ça. On se dit, la maternité, c'est problématique, point. À un moment donné, non, c'est moins problématique, effectivement, que, par exemple, les absences longue durée. Donc, comment on va essayer de ne pas pénaliser les femmes pour ça, on se dit, en ayant aussi, en tant que, par exemple, RH, une autre vision de la carrière que la carrière ascendante et linéaire. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où c'est quelque chose qui existe de moins en moins, et pour autant on continue à bâtir des modèles sur des modèles de oui, rémunération et d'évolution sur ce modèle-là.
Vous êtes RH, ça veut dire qu'il faut que vous preniez le problème à bras-le-corps en disant, bon, bah, j'ai 50 femmes dans mes équipes potentiellement qui pourraient avoir des enfants, il faut que je prévoie des intérimaires globalement pour remplacer à certains types de postes. Est-ce qu'il faut mettre carte sur table cette question-là?
Alors, une chose importante, c'est qu'on ne peut pas, parce qu'on a une femme dans ses équipes, faire peser sur elle une présomption de maternité. Ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle va être mère.
Mais comment on fait alors? Mais comment on fait quand on est RH pour justement gérer ces problèmes-là?
C'est une question où l'anticipation, elle est importante pour les RH. C'est une question de formation, de comment je vais répartir les tâches. Est-ce que j'ai besoin d'avoir recours au CDD? On a aujourd'hui l'opportunité, effectivement, avec des CDD, des intérimaires, de remplacer les personnes qui sont absentes pour 16 semaines. On parle encore une fois de 16 semaines. Il faut remettre dans le contexte. C'est un temps extrêmement court.
Merci beaucoup, Marie Bournazel, consultante en management spécialisée dans les questions d'égalité et coordinatrice chez Femmes Ici Ailleurs. Vous nous remontrez le magazine si on veut des...
Avec plaisir.
Avec plein de femmes à l'intérieur.
Avec plein de femmes.
On peut appeler pour les interviewer, les rencontrer.
Oui, et vous pouvez adhérer en fait pour avoir plein de modèles inspirants en allant sur le site de Femmes Ici Ailleurs et en me disant que vous avez connu par BFM Business.
Ah, bien sûr, voilà. Ça, par moi, directement.
Exactement.
Vous aurez quoi? Vous aurez rien, vous gagnerez rien, mais ça sera sympa.
Bah, vous changez le monde, votre monde et le monde.
Ah, ça c'est pas mal. Restez avec nous, on continue, on va parler salaire, on va apprendre à bien négocier.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et on va apprendre désormais à négocier son salaire parce que ça s'apprend. On est avec Raphaël Maisonnier, fondateur de l'application Link. Bonjour.
Bonjour Laure.
Alors, c'est une application d'entraide entre professionnels. Vous avez monté une sorte de programme pour négocier son salaire, hein, femme ou homme. Tout le monde doit apprendre à négocier. C'est quoi les clés rapidement pour, quand on arrive à sa négociation, être bien prêt?
Pour moi, déjà, il faut savoir, avant de commencer à parler de ça, que le plus important, ce n'est pas le salaire. Donc, vous entendez une négociation pour un poste. Le plus important, c'est un, est-ce que les gens avec qui vous allez bosser vous font envie? En premier chef, votre manager. Deux, est-ce que la mission pour laquelle vous allez signer vous intéresse? Et trois, est-ce que la culture de la boîte vous correspond?
Ouais, mais moi, je vous parle de sous, Raphaël. Comment on négocie les sous?
Oui, mais donc déjà, une fois qu'on a dit ça, ensuite, c'est les premières choses à checker. Et une fois qu'on est OK là-dessus, s'il y a un non sur une de ces trois, il ne faut pas y aller dans la boîte. Deuxièmement, une fois que ça c'est validé, alors là, il faut être malin, parce qu'il ne faut pas être trop procédurier. Parce que si vous êtes trop procédurier et que vous questionnez tout, que vous avez trop de questions, vous négociez trop fort, c'est un mauvais signal. Et là, ça peut même mettre fin au processus de négociation. Ou en tout cas, vous n'entrez pas dans. Si jamais vous entrez dans la boîte et que vous avez le poste, vous n'allez pas être dans une relation de confiance et ça va pas être bon.
Mais qu'est-ce donc que vous là, appelez moi, trop procédurier? Ça veut dire quoi?
Poser trop de questions, que ce soit sur le salaire, sur les bonus, sur le package, sur combien vous allez avoir de vacances, de RTT, de machin. Tout ça, c'est bien, mais ça doit arriver tard. Et en fait, moi, ce que je recommande d'abord, c'est de parler de tout ce qui n'est pas salarial, du job, de avec qui vous allez bosser, de la culture de la boîte. Et en fait, à la fin, s'il y a un match là-dessus, laissez l'entreprise en premier vous faire la proposition. En gros, l'idée, c'est de négocier sans en avoir l'air. C'est ça l'idée.
Oui, mais sauf que l'entreprise, elle va vous demander combien vous gagnez aujourd'hui et quelle est votre fourchette de prix. Elle n'a pas d'abord donné toutes ses cartes. Elle négocie, elle aussi.
Oui, mais l'idée, donc, c'est de rester vague et d'attendre la première proposition de l'entreprise. Et une fois que vous avez la proposition, vous, de vous être renseigné, vous pouvez être renseigné quand même sur c'est quoi la politique de salaire au sein de l'entreprise. Et vous avez aussi des sites qui peuvent vous aider si vous n'avez pas des connaissances et aussi sur les concurrents. Et une fois que vous avez ça, je vous recommande de répondre que vous voulez être payé à votre juste valeur et de faire une contre-proposition qui vise si possible, si vous avez réussi à avoir l'info, le haut de la grille salariale. Et de ne pas sortir de cette grille. L'idée, c'est pas non plus. Il ne faut surtout pas être sous-payé parce que vous allez être frustré et vous allez vous démotiver et ce n'est pas bon. N'acceptez pas un job, vous êtes sous-payé. Mais l'idée, ce n'est pas non plus d'avoir plus et de prendre le plus possible dès le premier coup.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas mentir sur son salaire de départ. Il faut donner le vrai chiffre?
Moi, je recommande jamais, de jamais mentir. Il faut vraiment. bâtir une relation de confiance et pour être bien sur le long terme, il faut une relation de confiance. S'il n'y a pas de relation de confiance, ça capote.
Un conseil, Raphaël, rapidement, il nous reste 30 secondes pour les femmes qui négocieraient spécifiquement actuellement pour un nouveau poste.
Pour moi, j'ai du mal à donner des conseils juste pour les femmes. J'ai du mal à comprendre cette dichotomie entre hommes et femmes, en fait, pour être tout à fait transparent.
Vous ne répondez à aucune de mes questions.
Non, mais ça n'a pas lieu d'être. Et c'est juste que négocier comme tout le monde, chaque individu doit suivre ces conseils-là, à mon avis. Et si jamais, parce que vous êtes une femme, une entreprise n'est pas à l'aise que vous négociez, eh ben, ça veut dire qu'elle ne vous mérite pas. Et surtout, n'allez pas dans ce genre d'entreprise, vous n'y serez pas bien sur du long terme.
Voilà, aller dans une entreprise qui vous mérite. Bon, on pourrait dire que c'est aussi un conseil de riche quand même quand on voit les chiffres du chômage à venir pour le mois de septembre. Mais quand même, il faut rester optimiste et dire qu'il faut trouver une entreprise qui vous correspond. Merci beaucoup Raphaël Maisonnier, fondateur de l'application Link. C'est la fin de cette émission. C'est la dernière de la saison. Je vous souhaite un excellent week-end, un très bel été et on se retrouve à la rentrée pour un nouveau magazine Happy Boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.